Bonjour, vous écoutez Radio Grand Ciel et vous allez écouter notre émission Site légendaire qui est animée par Christina Fauta aujourd'hui.
Bonjour.
Et Elisabeth Couget avec Simon à la technique que nous remercions tout de suite. Alors, où tu nous amènes aujourd'hui, Christine ?
À Venise, un site légendaire dont le seul nom fait rêver.
Donc, c'est un site parfait, n'est-ce pas, pour notre émission. Mais nous n'allons pas parler des innombrables merveilles de Venise, bien connues, monuments, palais, églises, qui regorgent de chefs-d'œuvre artistiques.
Ça nous prendrait énormément de temps. Non, nous allons plutôt parler de Venise comme site extraordinaire, avec sa fabuleuse histoire, ses mystères et ses légendes. D'abord le site de Venise. Une lagune immense qui s'étend sur 55 000 hectares, dont 50 000 d'eau et 5 000 de terre, au nord-est de l'Italie, sur la côte adriatique.
Alors c'est assez étonnant effectivement comme paysage, mais on se pose quelquefois la question, comment s'est formée cette lagune ?
Il y a environ 6 000 ans, après la dernière glaciation, la remontée du niveau des eaux a formé la lagune de Venise. Elle est située à la rencontre des courants marins et fluviaux dans l'ancien delta du Po et c'est un site naturel complexe, presque unique au monde.
Alors, comment s'est formée la partie littorale ?
Oui, bien sûr, c'est le sable qui est apporté par les fleuves, qui est modelé par les courants marins, qui a formé en se déposant le littoral. La lagune s'est refermée sur elle-même. Et à partir du XIVe siècle, les principaux fleuves qui débouchaient dans la lagune ont été détournés. Aujourd'hui, la lagune ne communique plus avec la mer que par les trois bocche de porto, bouche de port, le Lido, le Malamocco et Chioggia. Des digues, qu'on appelle murazzi, protègent le littoral de l'érosion marine depuis le XIIIe siècle. Et la lagune de Venise, c'est aussi un ensemble d'îles, près de 40 d'étangs et de canaux qui abritent un grand nombre d'espèces animales et végétales.
Alors maintenant, le site, on l'imagine, on commence à comprendre comment ça s'est formé. Mais les bâtiments, la ville même, la ville de Venise, alors comment ça s'est formé ?
Eh bien, contrairement à ce que l'on croit, Venise n'est pas construite sur pilotis, mais sur le terrain instable des îlots de la lagune.
Mais c'est décevant, l'imaginer.
C'est quand même pas mal sur les îlots de la lagune.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc la ville est en fait une série d'îles reliées par des ponts qui se resserrent progressivement en dessinant canaux et bassins. Et puis on a ajouté aussi des bandes de terre conquises sur la lagune grâce à la ténacité des hommes.
En fait, on peut dire que Venise est le résultat de 5 siècles d'intervention de l'homme, qui est toujours à la recherche d'un équilibre entre ses propres exigences et ses besoins et la nature.
Oui, c'est tout à fait ça. Comme le disait Philippe de Comines, ça te rappelle quelqu'un ?
Oui, bien sûr.
Ambassadeur du roi de France à Venise en 1494. Il s'exprimait ainsi, le Grand Canal, c'est la plus belle rue qui soit au monde. Et plus près de nous, Marcel Proust, les demeures disposées des deux côtés du chenal faisaient penser à des sites de la nature, mais une nature à l'imagination humaine.
Mais c'est joli, c'est aussi joli, joli comme tout les textes, tout ce qu'écrivait Marcel Proust, je vais y arriver. Alors de quand date la fondation de Venise ?
Venise tiendrait son nom des origines du peuple Vénète. Ce sont les descendants de l'arrière-petit-fils de Noé. Bon, impossible à vérifier, bien sûr.
Mais c'est joli comme idée.
Voilà. C'est en fait depuis le haut Moyen-Âge une province byzantine. Et d'ailleurs, la flotte de Byzance accourt pour défendre la lagune lorsque les Français veulent y pénétrer en 810. Venise est véritablement fondée le 25 mars 811. Et dès le 8e siècle, les populations de la lagune se mettent à élire leur gouverneur, qu'on appelle doge, du latin dux, qui veut dire commandant. Tu te souviens peut-être du Duce.
Oui,
voilà.
Oui,
donc c'est le même mot.
Hélas, je crois que tout le monde s'en souvient.
Voilà, doge, commandant.
C'est peut-être pas plus les jeunes. Hein.
Alors, comment sont choisis ces doges depuis cette époque? C'est absolument incroyable. Ils incarnent l'unité de Venise. Ils sont élus à vie, certes, mais à un âge tout à fait respectable. Plus de 70 ans, donc ils ont déjà une grande sagesse et une grande expérience.
Ils ne vont pas durer longtemps.
Moi aussi, peut-être.
En principe.
En tout cas, ils sont aussi choisis parmi les plus grandes familles vénitiennes.
Alors, quel est le lien entre Venise et Samar?
En 828, Venise fait dérober la célèbre dépouille de Saint-Marc à Alexandrie. Cette relique importante va permettre à Venise de s'émanciper de la tutelle des empires romains d'Occident et d'Orient en affirmant symboliquement l'indépendance de l'Église de Venise.
Alors, d'où la basilique Saint-Marc, bien sûr.
Oui, alors basilique, bon, un petit rappel, parce que dans l'Empire romain, la basilique, c'était le palais où le roi, qu'on appelait Basileus, rendait la justice. Mmh. Après l'édit de Milan en 313, qui autorise aux chrétiens
de pratiquer leur religion, bien sûr.
Donc les chrétiens, à ce moment-là, sortent de la clandestinité.
Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à construire les églises.
Et l'empereur Constantin fait bâtir à Rome
Parce que c'est lui qui l'a permis.
Oui, c'est ça, l'édit de Constantin, en fait.
Absolument.
Il fait bâtir à Rome 4 basiliques dites majeures. 4 seulement. Hein. Saint-Pierre, Saint-Paul hors les murs, Sainte-Marie majeure et Saint-Jean de Latran. Toutes les autres basiliques dans le monde sont dites mineures, dont la basilique Saint-Marc.
Voilà, mais ça, c'est bon à savoir, parce que quelquefois on se pose la question...
Entre majeur et mineur.
Pourquoi majeur, pourquoi mineur, etc. Voilà, donc ben merci pour ces précisions, Christine. Alors donc, disons que la relique, pensons à ça, Saint-Marc, arrive donc à Venise en 828. Alors raconte un peu, parce que c'est assez amusant,
oui,
si on peut dire.
Ce sont deux marchands de Torcello, c'est une île de la lagune. Ces deux marchands volent le corps de Saint-Marc à Alexandrie, et le ramène à Venise caché sous de la viande de porc afin de décourager les contrôles musulmans. Et ça marche.
Ça marche forcément.
Ça a marché. Saint-Marc devient le patron de Venise. Alors, et le lion...
Son symbole, finalement.
Oui, l'emblème de Saint-Marc.
Et l'emblème de Saint-Marc. Je voulais juste dire une chose. À côté de Saint-Marc, je pense, en Italie, il y a eu un autre saint. Qui est arrivé de la même façon, c'est-à-dire que caché dans un corps de porc.
Oui, c'était une méthode assez courue à l'époque.
Exactement.
Ouais. Et qui est ?
C'était donc Saint-Nicolas qui se trouve à Bari,
voilà.
À qui j'ai rendu honneur.
Donc là, je reviens à Saint-Marc. Donc, le lion devient le symbole du jeune État vénitien, puisque le lion, c'est le symbole, comme on le sait, de Saint-Marc.
C'est ça.
Le lion ailé. Et sur les armoiries de Venise, on lit « Sufficit gratia tua » en latin, ça veut dire « ta grâce me suffit ». Et il figure aussi un bateau surmonté de l'étoile de Vénus, car Vénus a aussi donné Venise, avec 8 rayons, c'est le nombre de la perfection divine, et bien sûr, le lion ailé avec des ailes, donc de Saint-Marc, qui porte l'évangile. Venise devient une république maritime, comme Gênes ou Pise, et en échange de l'appui financier et militaire que Venise fournit à Byzance dans sa lutte contre l'islam, Venise obtient des privilèges commerciaux dans tout l'Orient byzantin.
Bon, c'est bien intéressant à savoir tout ça. Alors, d'après sa position, elle va tirer parti des croisades, bien entendu, puisque tout le monde passe par là.
On est obligé de passer par
Venise. Il n'y a pas d'autre solution.
Et les soldats de Dieu, les croisés, ont besoin de navires, de vivres et d'argent. Donc, Venise va leur fournir tout cela et Venise ouvre des comptoirs en Méditerranée. Dès le XIIe siècle, Venise est assez puissante pour s'imposer comme médiateur entre le pape Alexandre III et l'empereur Frédéric Ier Barberousse. Venise se donne une classe politique homogène et stable. On a déjà parlé des doges, mais il y a aussi le Conseil des Dix en 1310. Et en fait, on voit bien le Conseil des Dix, ce sont des conseils restreints qui sont extrêmement puissants. Dès le XIIIe siècle, la République de Venise étend progressivement son contrôle à une bonne partie de l'Italie du Nord et s'impose comme une grande puissance méditerranéenne jusqu'aux portes de l'Orient.
Oui, l'unique république finalement dans toute l'Europe.
Absolument, c'est un véritable exemple, incroyable.
Oui, étonnant. La stabilité de ces institutions fait l'admiration partout.
D'autant qu'elle reste pratiquement inchangée de 1297 à 1797, soit 5 siècles. Qui dit mieux, à part les pharaons peut-être. Et Venise sera pour beaucoup un modèle de gouvernement.
Et même devient une véritable mythe politique dans l'Europe de l'Ancien Régime.
Et c'est ce que nous dit Pétrarque. Venise, c'est l'unique demeure de la liberté, de la paix et de la justice. Fondée sur des marbres solides, sainte de fleuves salés, mais combien plus grande de tout le sel de son esprit.
Voilà, vous écoutez Radio Grand Ciel et nous parlons aujourd'hui de Venise, notre site légendaire du mois, et qui était surnommé la Splendide, la Sérénissime. Tout ça, ce sont des magnifiques appellations et de beaux noms. Hein.
Oui, et pourtant, Venise est violemment touchée par la tragique épidémie de peste en 1348, où elle perd la moitié de sa population. Et on se souvient peut-être de ces gravures avec des médecins dont le visage est caché par une sorte de masque en forme de gros oiseau à bec crochu et qui mettaient sur leur nez une éponge de vinaigre pour se protéger de l'épidémie.
D'ailleurs, ces masques, on les voit toujours encore aujourd'hui lors des carnavals.
Lors des carnavals qui
rappellent
cette époque.
Exactement, il y en a qui
aussi,
reprennent ces masques-là. Oui. Ouais.
Et puis en plus, non seulement elle met Venise à se relever de cette terrible épidémie.
Parce qu'elle est forte.
Parce qu'elle est très forte, on pourrait dire très résiliente aujourd'hui.
Absolument.
Et elle sort victorieuse en plus d'un conflit avec Gênes. Au XVe siècle, Venise étend son empire maritime en Méditerranée. Appartiennent à Venise Corfou, la côte albanaise, la Dalmatie, Chypre. C'est l'apogée de la puissance vénitienne.
Mais oui, d'ailleurs, si tu te promènes en ex-Yougoslavie, je parle de la Croatie surtout.
Oui.
On trouve le lion de sa marque sur toutes les entrées,
voilà,
à Kotor,
c'est Venise qui a imprimé
d'autres villes.
Son marque, on peut dire.
Effectivement, voilà.
Oui. Et c'est au point qu'une ligue va se former sous la houlette du pape Jules II et part en guerre contre Venise avec les souverains d'Europe et les États italiens. Mais Venise s'alliant tour à tour avec François Ier et Charles Quint, et là il faut quand même dire que la diplomatie vénitienne est inégalable, Venise va reconquérir toutes ses possessions et opte alors pour une prudente neutralité.
Absolument, et laisse venir les Turcs en Europe. Absolument.
Prudente neutralité.
Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est l'âge d'or de Venise quand même.
16e, 17e siècle, Venise devient un centre de la Renaissance italienne. C'est la ville du Titien, de Tintoret, de Véronèse, des Bellini. Mais elle recule en Méditerranée malgré la victoire de Lépante en 1571.
Alors, on en parle, cette victoire de Lépante, parce que bon, c'est très célèbre.
Oui.
Mais tu peux nous le rappeler quand même pour
oui,
que nos auditeurs se rappellent aussi.
Donc, Venise s'est alliée à l'Espagne et à la papauté et se ligue contre les Turcs qui avaient attaqué Chypre. On se rappelle, une possession de Venise.
Il ne fallait pas y toucher.
Voilà. Donc, dans la bataille, qui est une victoire chrétienne, dans la bataille, environ 30 000 Turcs sont morts ou faits prisonniers. Et du côté chrétien, il y a 9 000 morts et aussi de nombreux blessés, dont un certain Cervantes qui qui écrira plus tard, Don Quichotte.
Heureusement qu'il n'est pas mort, ça aurait été quand même vraiment dommage. Alors, on voit bien que c'était une république étonnante, voilà, extraordinaire, mais ça a duré jusqu'à quand ?
Elle est emportée dans la tourmente des guerres napoléoniennes. Bonaparte déclare la guerre à Venise le 1er mai 1797. Au traité de Campo Formio, les Français abandonnent Venise à l'Autriche. Venise ne sera rattachée au jeune royaume d'Italie qu'en 1866.
Oui, presque 70 ans plus tard. Aujourd'hui, Venise ne livre bataille finalement que contre ses flots.
Mais c'est aussi une bataille
oui,
contre
énorme.
Les flots. Oui, car c'est le phénomène de l'aqua alta, l'eau haute. En fait, ce sont des marées exceptionnelles qui, en s'engouffrant par les trois portes d'entrée de la lagune, Lido, Malamocco et Chioggia, inondent la ville. Problème, cela arrive de plus en plus souvent.
Et oui, effectivement, c'est assez impressionnant d'après les images. Alors, comment expliquer cela ?
L'Adriatique, c'est une mer quasi fermée et très sensible aux marées, mais aussi aux vents violents. Il y a le Sirocco qui souffle de Syrie et qui refoule la mer vers le golfe de Venise. Et d'autre part, la Bora qui souffle des plaines de Hongrie et qui empêche le reflux de la mer hors de la lagune. Ces deux vents, en se conjuguant, peuvent provoquer la formation de vagues jusqu'à 2,50 m de haut.
Et malheureusement, au fil des années, ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent et de plus en plus important.
Il y en avait un par an dans les années 20. Aujourd'hui, on en compte plus de 10 par an. En novembre 1966, la place Saint-Marc était sous 1,25 m d'eau. Et dans les quartiers anciens, les plus beaux, le sous-sol s'est tassé de 23 cm en 80 ans.
C'est énorme.
C'est quand même pas mal, oui. Et depuis 1966, depuis cette date, on cherche une solution pour protéger Venise des grandes marées. Un projet, le projet MOSE, M-O-S-E, ça rappelle un peu Moïse, a été mis en œuvre en 2003. Il s'agit d'un système d'écluses pour réguler le flux et le reflux des marées.
Et oui, effectivement, le but, c'est protéger et sauver Venise.
Et en fait, le problème ne date pas vraiment d'hier. Car comme le disait déjà Maupassant au XIXe siècle, je vous les cite, « Tout semble en ruine. Tout semble sur le point de s'écrouler dans cette eau qui porte une ville usée. Les palais ravagés par le temps, tachés par l'humidité qui détruit les pierres et les marbres. » Et plus près de nous, Paul Boran dit avec humour « Les maisons de Venise sont des immeubles avec des nostalgies de bateaux, d'où leur rez-de-chaussée souvent inondée.
» Eh oui, c'est vrai que toutes ces citations-là que tu nous entends sont toutes plus jolies les unes que les autres, parce qu'il faut dire que Venise est tellement exceptionnelle que cette ville a inspiré énormément d'écrivains.
Comme cette belle parole de Lord Byron, écoute.
Alors, que disait-il ?
Les palais se dégradent lentement au bord des canaux. Ces jours-là sont passés. La beauté seule est restée. Oui, Venise, c'est vrai, attriste les amoureux déçus comme George Sand. Mais Venise, on le sait, bien sûr, fut le théâtre d'un épisode orageux de la liaison de George Sand avec Alfred de Musset. En fait, George Sand n'en fut pas moins sensible à l'esprit allègre de Venise, car elle nous dit que Venise retentit sans cesse de chansons et d'aubades, donc elle n'était pas que triste. À Venise, c'est vrai, les fêtes sont nombreuses et légendaires. Religieuses ou civiles, politiques ou militaires, elles se succédaient toute l'année à une cadence accélérée. Et alors, la ville est pavoisée de banderoles, de tissus d'Orient. On dresse des portiques, des arcs de triomphe. Ce sont des cérémonies grandioses en présence des doges, des cortèges, des processions, de véritables rituels de la vie politique et spirituelle de la cité.
Il y a beaucoup de fêtes religieuses, n'oublions pas, en plus.
Oui, parce que, et en plus, c'est dû qu'au XVIIIe siècle, on comptait quand même plus de 200 sanctuaires à Venise. Mm-hmm. Donc, ça témoignait vraiment d'une dévotion populaire. Par exemple, l'église de la Salute, avec ses deux coupoles arrondies au dôme d'or à la pointe du Grand Canal. Et pour la fête de la Salute, on remerciait la Vierge d'avoir mis fin à la peste de 1630. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs pestes dans l'histoire de Venise.
Exactement. Alors, ce Grand Canal, c'est la grande rue, comme disait le ministre de Louis XIV, la grande rue de Venise. Et c'est une suite ininterrompue de palais et d'églises qu'il aborde, dont la façade donne sur l'eau. Donc, c'est très belle image.
C'est un somptueux décor, un théâtre à ciel ouvert où, sur la plus célèbre avenue aquatique du monde, se déployaient régates et fêtes. Il y avait aussi de fastueuses réceptions en l'honneur des ambassadeurs et des souverains d'Europe en visite à Venise, comme un certain Henri de Valois en juillet 1574.
Oui, c'était le fils de
Catherine de Médicis
oui, qui a appelé son fils en catastrophe lorsque son frère est mort. Donc,
exactement,
il n'avait plus droit de France, il fallait le récupérer. Comme on lui avait acheté le trône de Pologne, eh bien, il est revenu vite fait, en faisant quand même un petit détour par Venise.
En passant par Venise, ouais, c'est ça.
En créant quelques belles fêtes mémorables, déjà.
Une immense fête mémorable en son honneur.
Alors, bon, et puis, bien entendu, n'oublions pas, à côté de toutes ces fêtes, il y a le carnaval.
Et le carnaval à Venise dure quand même un bon moment, hein. Ça commence le lendemain de Noël, le 26 décembre, et ça va jusqu'au Mardi Gras. Mm-hmm. 2 mois de fêtes, on imagine.
Fabuleux.
On donnait de grands bals, on chantait, on faisait ripaille. Et pendant tout ce temps, tout était permis sous le déguisement et le masque.
Oui, par exemple, il y a beaucoup de masques, donc très célèbres. On a parlé tout à l'heure de ceux des médecins, mais il y a Pantaléon.
Le masque de Pantaléon. Alors, Saint Pantaléon, c'est un saint local qui était le médecin de l'empereur Dioclétien. Il a été mis à mort pour s'être converti au christianisme. C'est aussi un personnage de la Commedia dell'arte. Et Saint Pantaléon portait des culottes longues. Du coup, les Français ont repris ce mot pour désigner ce fameux vêtement.
Oui, le pantalon.
Le pantalon, voilà.
Voilà, exactement. Alors, on se rendait, bien sûr, pas forcément en pantalon, mais on se rendait au bal en gondole.
En gondole. Et les gondoles font partie de la légende de Venise. Les nobles vénitiens prirent l'habitude de se déplacer à bord de gondoles. Les gondoliers forment toujours une caste qui se transmet encore aujourd'hui de père en fils. Il y a environ 400 gondoliers qui sillonnent les canaux de la cité lagunaire. Autrefois, ils étaient somptueusement vêtus. Aujourd'hui, ils portent des vêtements noirs et un chapeau de paille au ruban rouge ou bleu. La République de Venise faisait don aux souverains et aux ambassadeurs étrangers de prestigieuses gondoles. C'était le cadeau. Voilà.
Mais il fallait des gondoliers aussi.
Il fallait bien sûr les gondoliers. Et ainsi, en 1687, notre roi soleil Louis XIV avait à son service 15 gondoles et leurs gondoliers.
Forcément, le grand canal à Versailles en avait besoin. Ça doit être magnifique. Alors là aussi, nous sommes dans la légende, parce que nous parlons d'un site légendaire, effectivement, n'oublions pas.
Oui, alors, car le gondolier, c'est le symbole de la lutte de Saint-Georges contre le dragon. Le balai des rames étant incessant, le dragon qui est tapis au fond des eaux de la lagune ne remonte jamais à la surface. Du coup, on ne l'a jamais vu, bien sûr. Au loin, il y a l'île de San Giorgio Maggiore et son couvent bénédictin qui rappelle cette légende. La couleur de Venise, c'est le rouge, couleur de Saint-Georges qui tua le dragon de sa lance.
Donc j'imagine, c'est le sang du dragon
bien
qu'on
sûr.
Boit, bien sûr. Alors, Venise porte aussi son nom depuis de Vénus, finalement.
Oui, et Vénus, on le sait, est liée à la Lune. D'ailleurs, as-tu remarqué que la forme de la gondole est en demi-lune ?
Absolument.
La gondole a une coque allongée de 11 mètres sur un peu moins d'un mètre 50. Elle est en bois de noyer le plus souvent, et pour la protéger, on passe 7 couches de peinture noire, dont la recette reste secrète. Mmh. Le gondolier se tient debout et manœuvre sa rame d'avant en arrière et nous promène dans Venise, resplendissante de miroitements et de reflets qui courent des vagues aux nuages.
Alors ces jeux de lumière et de l'eau, ont inspiré bien des peintres, par exemple Turner, qui parvient à en évoquer merveilleusement l'atmosphère.
Alors écoute, nous sommes en gondole, voilà, bercés par les flots, et je te dis un poème de Henri de Régnier. L'eau luit, le marbre s'ébrèche, les rames se font écho, quand on passe à l'ombre fraîche du palais Rezzonico.
Alors, c'était Henri de Régnier qui a écrit ça, c'est ça?
Et nous voilà arrivés, après cette petite balade en gondole, place Saint-Marc, un condensé de style byzantin gothique renaissance. C'est un haut lieu politique et religieux de la Sérénissime et de sa puissance financière, avec le lion, bien sûr, symbole de Saint-Marc, et sur la basilique, les quatre chevaux de Lysippe sautant dans les nuages, courbant leurs encolures.
Alors, parle-nous un petit peu des reliques extraordinaires du trésor de cette basilique Saint-Marc.
On s'en doute, Venise ne fut pas en reste dans la course aux reliques. Bien sûr, celle de Saint-Marc, plus des morceaux de la vraie croix, une fiole du sang du Christ, un petit morceau de la colonne de la flagellation, un peu de l'étoffe de lin qui servit au lavement des pieds, des cheveux de la Vierge, l'épée avec laquelle Saint-Pierre coupa l'oreille de Malchus,
entre autres,
il y en a d'autres.
Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Il y a le célèbre pont des soupirs, n'oublions pas. Je vais te faire une blague. C'est le pont des amoureux.
Mais non, bien sûr. Le pont qui relie les geôles du palais ducal aux autres prisons. Et les soupirs, ce sont ceux des prisonniers.
Et oui, et non des amoureux.
Par exemple, les soupirs de Casanova, qui était peut-être aussi amoureux d'ailleurs.
Oui, possible.
Casanova qui réussit en 1755, à sortir de cette prison par une rocambolesque évasion.
Alors, il paraît que le Jardin d'Éden est à Venise.
C'est vrai?
C'est Venise.
C'est vrai? Bon, en fait, c'est le mythique jardin de Sœur Frédérique Éden. En fait, en anglais, ça se dit Eden.
Et alors, restons en français, on saura mieux.
Eden. Le petit-neveu, d'ailleurs, qui s'appelait Anthony Eden, fut un premier ministre anglais dans les années 50. Sœur Frédérique Éden acheta en 1884 une ancienne dépendance du couvent des sœurs de Santa Croce. Ce jardin est l'un des secrets les mieux gardés de Venise.
Nous avons évoqué les célébrissimes peintres vénitiens, le Titien, Véronèse et tant d'autres. Alors Venise n'est pas tout à fait Venise sans les autres îles de la lagune, il ne faut pas les oublier.
Tu as près de 40.
Cité tout à l'heure Torcello.
Dont Torcello qui est presque déserte, mm-hmm. Murano et ses ateliers de verre soufflé depuis le XIIIe siècle. Ils ont été placés à Murano à cause des risques d'incendie qu'on craignait à Venise. Et puis Burano et ses dentelières. Et pas de palais dans ces îles, mais des maisons aux vives couleurs, souligné de blanc et qu'on distingue mieux quand le brouillard se lève sur la lagune.
Alors maintenant, pour finir, si nous regardions Venise avec les yeux de Chateaubriand, qui a parlé de Venise dans ses mémoires d'outre-tombe.
Les édifices surdorés embellissent avec profusion par Giorgione, Titien, Véronèse, le Tintoret, Jean Bellini, sont remplis de bronze, de marbre, de granit, de porphyre. Une clarté suave les éclaire. Et pourtant, ce n'est plus la Venise de Philippe de Comines, ministre de Louis XI. La Venise épouse de l'Adriatique et dominatrice des mers. La Venise qui donnait des empereurs à Constantinople, des rois à Chypre, des princes à la Dalmatie, au Péloponnèse, à la Crète.
Et je reprends les paroles de Chateaubriand. Venise, n'oublions pas, qui république au milieu de l'Europe féodale, servait de bouclier à la chrétienté, qui abattait le croissant à les pentes. La Venise dont les doges étaient des savants et les marchands des chevaliers. La Venise, à la fois Corinthe, Athènes, Carthage.
Elle n'est plus cette Venise-là. Et pourtant, elle est encore, quand nous la contemplons. Car au-delà de tout ce qu'elle doit affronter aujourd'hui, elle reste une des seules cités au monde à être restée miraculeusement intacte. Une légende vivante.
Donc, un véritable site légendaire, voilà, que nous étions très heureuses, Christine et moi, de vous présenter sur Radio Grand Ciel aujourd'hui.